À présent et sans plus tarder, comme tous les samedis, le tour du monde de nos correspondants. Nous partons d'abord en direction de l'Irak avec cette révélation faite par un haut responsable à l'AFP. 48 tonnes d'archives du régime de Saddam Hussein ont été récemment et surtout secrètement rendues à Bagdad. Depuis 2003, elles étaient précieusement conservées aux États-Unis. Lucille Wasserman, vous êtes notre correspondante à Bagdad. Lucille, bonjour. De quelles archives parle-t-on et alors pourquoi cette restitution fait débat ?
Bonjour. Alors, ces archives ont été retrouvées par des militaires américains au siège du Parti Basse en 2003. Ça a été une trouvaille très importante parce qu'elle contient des dossiers d'adhésion, mais aussi des lettres de délation. Tous ces documents ont été ramenés aux États-Unis à l'époque, puis conservés avec un accès très restreint. Mais vous l'avez dit, ces archives ont été rendues à Bagdad, selon l'AFP, depuis le 31 août. Les autorités irakiennes ne semblent pas avoir l'intention d'ouvrir ces archives au public, mais la population pourrait bien faire pression pour que ce soit le cas. Pourquoi ? Parce qu'en Irak, il y a plus d'un million de personnes portées disparues pendant cette époque, et ces archives pourraient bien apporter aux familles les réponses aux questions qu'elles se posent depuis de nombreuses années. La publication pourrait également permettre, selon certains, de mieux comprendre les erreurs du passé, éviter que l'histoire ne se répète. Mais pour d'autres, au contraire, l'Irak n'est pas prêt à cela, en tout cas pas avant d'avoir entamé une démarche de réconciliation nationale pour que ces documents ne créent pas davantage de fractures au sein de la population.
Lucille Wasserman, merci. Et de l'Irak, on s'envole pour la Malaisie, où les frontières sont toujours strictement fermées, Covid oblige, et cela pose un grand problème pour l'exploitation d'huile de palme. En effet, elle repose notamment sur la main-d'œuvre étrangère. Gabrielle Maréchaux, correspondante de RFI en Malaisie, les gérants des plantations doivent donc s'adapter. Gabrielle, il faut trouver une nouvelle main-d'œuvre à l'intérieur du pays.
Oui, et pour cela, le lobby de l'huile de palme vise trois populations en marge de la société, les prisonniers, les toxicomanes en réinsertion et les aborigènes. Le point commun entre tous ces individus, vous l'aurez compris, est être éloignés du marché de l'emploi et donc potentiellement plus motivés à accepter le travail d'ouvrier agricole, une occupation qui réunit ce que les Malaisiens surnomment les 3D pour « dirty, dangerous, difficult », soit « dangereux, difficile et sale » en français. C'est l'association malaisienne d'huile de palme qui a suggéré cette semaine cette nouvelle piste après des mois d'incertitude, car en temps normal, plus de 80% des ouvriers viennent du Bangladesh et de l'Indonésie, et en l'absence de certains d'entre eux bloqués outre-mer, les dirigeants de plantations doivent trouver 36 000 nouvelles paires de bras prêtes à travailler durement. Ajoutez à cela qu'octobre et novembre représentent le pic d'activité de l'huile de palme, et il s'agit donc bien aujourd'hui de ne pas transformer l'année catastrophique de 2020 en celle du dépôt de bilan.
Gabrielle Maréchaux, correspondante de RFI en Malaisie. Incertitude économique aussi en Irlande du Nord, mais cela concerne un autre dossier, celui du Brexit. Alors que le ton monte entre Bruxelles et Londres, l'Internal Market Bill, autrement dit la loi sur le marché intérieur, autoriserait le gouvernement britannique à revenir sur le protocole nord-irlandais. Emeline Vin, ces amendements ne devraient pas engendrer de retour d'une frontière sur l'île, mais ils suscitent des inquiétudes.
Des inquiétudes économiques, déjà. Le projet de loi autoriserait le gouvernement britannique à revenir sur les dispositions douanières de l'accord de sortie de l'Union européenne, avec le risque de bloquer le commerce, soit entre l'Irlande du Nord et la République au sud de l'île, soit entre la province et la Grande-Bretagne, désastreux dans les deux cas. Autre préoccupation, celle du doigt dans l'engrenage. À partir du moment où un gouvernement brise ses propres engagements internationaux, où est-ce qu'il s'arrête ? Le chef de la justice nord-irlandaise, Declan Morgan, craint que la loi n'ébrèche durablement la confiance des Nord-Irlandais dans le gouvernement britannique. Menace supplémentaire, celle d'une frontière entre les deux Irlandes pour contrôler les biens qui entreraient ainsi en Irlande et donc dans le marché commun. Les postes frontières ont disparu depuis la signature de l'accord de paix de 1998. Confiance abîmée, difficultés économiques. Pour la chef du parti républicain de Sinn Féin, Marie-Lou MacDonald, il n'en faut pas plus pour menacer la paix sur l'île. Une crainte partagée par l'Union européenne qui a déclaré ce jeudi, le projet de loi ne protège pas l'accord de paix. Bien au contraire.
Emeline Vin depuis Dublin. Enfin, Europe toujours avec cette première en Croatie. Cette semaine, pour la première fois, un couple homoparental est devenu famille d'accueil pour deux enfants. C'est le fruit de plusieurs années de lutte juridique dans un pays où les préjugés homophobes sont toujours très forts. À titre d'exemple, en 2013, une loi qui a été adoptée par référendum a défini le mariage comme étant forcément l'union d'un homme et d'une femme. Laurent Rouy, le combat de ces deux hommes qui ont donc réussi à obtenir la garde d'enfants a été très médiatisé en Croatie.
C'est une victoire pour Ivo Chegota et Mladen Kojic qui sont devenus cette semaine le premier couple homoparental à obtenir la garde de deux enfants en Croatie. Ils avaient obtenu le statut de famille d'accueil après, tenez-vous bien, 3 ans de bataille juridique. Tout commence en 2017 lorsqu'ils demandent leur agrément pour accueillir des enfants placés depuis l'orphelinat. Réponse du Centre des Affaires Sociales, non. Et ce, deux fois de suite. Le fait qu'il soit un couple homosexuel dans un pays très conservateur et sous forte influence de l'Église catholique ne passe pas. Mais les deux partenaires ne se démontent pas. Ils attaquent en justice l'État croate. À leur grande surprise, la Cour constitutionnelle leur donne raison. C'est donc fait. Les deux hommes ont obtenu la garde de deux enfants qu'ils comptent bien adopter à l'avenir. Jusqu'à présent, seulement trois couples homoparentaux avaient tenté d'obtenir la garde d'enfants placés sans succès. Des couples qui, selon l'avocat de Chegota et de Kojic, ont de nouveau entamé des démarches pour un jour élever des enfants à la maison plutôt qu'à l'orphelinat.
Laurent Rouy, notre correspondant dans la zone. Merci.